C'est la fête aujourd'hui de la croix glorieuse. C'est aussi le commencement de ce qu'on appelle le carême monastique. C'est-à-dire que du 14 septembre jusqu'à Pâques, il y a dans certains monastères un jour de jeûne le vendredi. Jusqu'à l'Avent, puisque pendant l'Avent, on en a trois, et pendant le carême, c'est quotidien, sauf les dimanches et solennités, bien sûr. Donc voilà, c'est une grande fresque qui nous prépare à quelques mois de la réalité de cette fresque. Nous célébrons la croix glorieuse, alors on pourrait considérer que c'est la glorification après le sacrifice qui a eu lieu le vendredi saint, et c'est vrai, mais c'est aussi le redémarrage. C'est un peu comme si on nous montrait, voilà, l'objectif il est là, le salut il est là devant nous, mais il va se déployer maintenant. Et nous allons le revivre. Alors c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que chaque jour à la messe, nous sommes au pied de la croix. Le sacrifice de la messe, et en théologie on dit le sacrifice de la messe est la réactualisation non sanglante de l'unique sacrifice du Christ. Ce qui signifie qu'à la messe, ça n'est pas... La passion qui vient à nous, mais c'est nous qui sommes à la passion. Autrement dit, si on voulait temporaliser l'acte de la messe, il faudrait dire que nous revenons 2000 ans en arrière. Nous nous retrouvons au moment de la passion de Jésus, et la messe est née finalement que cette manière de le revivre. Alors c'est un peu terrible de dire ça parce que on est tellement ailleurs, quoi. On est tellement ailleurs, même comme prêtre, je peux le dire, hein, on est capable au moment de la consécration de penser à autre chose et on se dit mais c'est pas possible. Enfin, alors vous imaginez les pauvres prêtres qui ont 3 ou 4 messes à dire dans une journée, parce que au moins les samedis et dimanches, comment on fait pour être déjà présent à une? C'est difficile, alors à 4. Et donc tout ça est très important. On a le témoignage évidemment, notamment de Saint Padre Pio qui revivait la messe dans son aspect douloureux, sanglant, etc. Et il a peut-être ce mérite aussi d'avoir d'ouvrir quelque chose sur l'importance de l'offertoire, où on offre. L'offertoire, c'est le moment le plus important de la messe en tant que lieu d'offrande. On entend parfois des gens dire oh, moi je ne vais pas à la messe, moi, je fais des actes de charité avec mon prochain et puis ça va bien, quoi, parce que franchement quand on voit la tronche des gens qui vont à la messe. Alors, tout ça, c'est très bien, sauf que l'offertoire, c'est précisément le moment où nous venons déposer tous ces actes réussis ou ratés de la semaine. C'est précisément là. Alors, si on n'en a pas fait, on n'a rien à déposer, hein. Alors, un billet de je sais pas quoi d'ailleurs, parce que je sais plus ce qu'on fait là, 5 euros, c'est très bien, mais ça pèse pas lourd à côté d'actes de charité potentiels. L'offertoire, c'est extrêmement important. Il faudrait qu'il y ait un ouvrage écrit un jour sur l'importance capitale de l'offertoire. Bref, le prêtre, quand il élève la patène, offre toutes ses offrandes et les attribue à telle ou telle intention. Et puis la fraction de l'hostie marque, après la consécration naturellement, la fraction de l'hostie marque la mort du Christ, tandis que ce qu'on appelle l'intinction, c'est-à-dire le fait d'en prendre un petit bout et de le déposer, de le laisser tomber dans le calice, ça marque la réunion du corps et du sang qui témoigne de la résurrection. Nous communions pas au Christ mort, nous communions au Christ ressuscité. Voilà, cette longue introduction, il faudrait aller lire aussi le quatrième chant du serviteur en Isaïe 52, hein, où on a ce passage absolument bouleversant. Le quatrième chant est bouleversant, mais le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Ce qui est un parallèle bouleversant avec Jean 16, 33. Hein. Il faut, c'est pas dans les notes de vos Bibles, ça. Hein. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Hein, la paix, le châtiment qui est sur lui nous rend la paix. Voilà. Et donc, dans cet évangile, il y a trois. J'ai vu trois moments qui sont dits. Hein, j'invente rien. Il est descendu. Il est descendu. Il est donné au monde et il est envoyé. Donc nous avons ça. Hein. Celui qui est descendu du ciel. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Descendre. Se donner, être envoyé. Ces trois étapes de la vie spirituelle. Descendre, c'est l'humilité. Alors je le disais hier, l'humilité, ça s'apprend par les humiliations, mais on l'a dans la première lecture. Alors nous prenons la lecture des Philippiens, les années 2, et la lecture des Nombres, les années 1. C'est pas ce qui est indiqué. Sur les sites en ligne, mais tant pis. Donc Philippiens, vous savez, lui qui était de condition divine n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Donc cette humiliation, ce fait de se faire petit. Les humiliations sont douloureuses, mais ce sont nos balises sur le chemin que Dieu nous indique. Ce sont des balises fiables, les humiliations. Soit parce qu'elle nous révèle l'immensité de notre orgueil, elle nous révèle que le vieil homme n'est pas encore mort, ou bien elle nous montre que, oui, c'est bien le signe que c'est le chemin qui conduit à Dieu, parce que c'est celui que Jésus a pris. C'est hallucinant de penser qu'un Dieu se fait prendre notre nature. On n'a jamais vu ça nulle part, hein. C'est ce qui ça fait partie des choses qui répugnent à beaucoup de religions, l'islam notamment, mais l'arianisme, c'était chrétien, l'arianisme c'est une hérésie chrétienne, c'est insupportable d'avoir un dieu qui souffre, quoi. Donc descendre, l'humiliation, donner. Se donner aux autres. Je ne dis pas se fourguer ni s'imposer. Il faut du temps pour apprendre à se donner aux autres et à ne pas s'imposer aux autres. Et c'est aussi cause d'humiliation, du reste, et d'humilité. Et puis une fois qu'on est descendu, on a toujours à descendre, hein, rassurez-vous. Qu'on se donne, on a toujours à se donner. Et bien s'ouvre aussi cet envoi, ce fait que Dieu peut à ce moment-là commencer à nous inviter à témoigner de lui d'une manière ou d'une autre, dans cette descente, dans ce don. Voilà. Alors la descente, elle est curieuse parce qu'elle appelle une élévation. Il est descendu, il est élevé. Se donner, le Christ s'est donné, et la réponse au don, c'est de croire, c'est la foi. Et la réponse à l'envoi, c'est le salut qui nous est confié, voyez. Donc voilà, c'est un peu en raison inverse de ce que Dieu fait. Plus Dieu descend, plus il nous fait monter. Donc évidemment, on peut se réjouir qu'il soit descendu aussi bas. C'est un peu terrible ce que je dis, mais que serais-je devenu si tu n'avais tout donné pour moi? Parce que figurez-vous que Jésus, il n'a pas seulement donné sa vie, il a donné toute sa vie. Il est né pour vous, il a été circoncis pour vous, il a souffert la soif et la faim pour nous. Enfin, toute sa vie n'est qu'un don. Voilà, donc ça me paraît important de méditer cette croix glorieuse. Faut pas oublier le mot glorieux dans cette croix, hein. C'est-à-dire que c'est un trophée, quoi. C'est pas une cause de tristesse, c'est une cause de joie, de bouleversement. Mais c'est un don à demander pour voir dans la croix une gloire. Il me semble que ça n'est pas forcément spontané, hein. Beaucoup de gens disent non, moi je veux pas de ce truc-là. Quand la croix s'approche, on part en courant. Jésus lui-même est parti. Hein. Peggy, dans Gethsémani, on trouve son commentaire. C'est le commentaire, c'est. Comment ça s'appelle? Clélie ou l'âme charnelle, je crois que c'est ça. Donc dans Gethsémani, son commentaire sur Gethsémani, c'est un truc hallucinant, hein, c'est bouleversant. On trouve ça dans la Pléiade notamment, mais on le trouve aussi sur Internet quand on sait bien chercher. Il y a un PDF qui a été extrait. Et. Il parle de Jésus au moment de la Passion, et il dit, voilà, tout a été fait, l'arbre a été planté il y a 30 ans pour qu'on en tire le bois de la croix. Tout a été fait, tout a été fait, tout va dans le même sens. Il n'y en a qu'un qui demande à aller dans l'autre sens, c'est Jésus. Que cette coupe passe loin de moi. Franchement, si vous avez un peu de temps, lisez ce commentaire de Gethsémani. Bon, il y a 35 pages, hein. Puis c'est du Peggy, donc si vous aimez pas Peggy, ça va être quelque chose, hein. Bah, Peggy, je veux dire, sur 35 pages, il y a 4 points de ponctuation, quoi. Donc, faut. Bon. Mais c'est. Enfin, on n'est plus le même quand on a lu ça après, hein. C'est complètement bouleversant, il faut le reprendre de temps en temps. Donc voilà, cette croix est glorieuse néanmoins. J'insiste dessus, c'est une gloire, et si nous n'y voyons pas une gloire, nous n'avons pas encore compris quelque chose. Oui, que Dieu se soit abaissé, c'est notre gloire. On ne comprend pas, oui, mais c'est sa volonté, et donc c'est forcément une joie. Eh bien, que cette croix nous enthousiasme, hein, je rappelle, hein, de temps en temps, enthousiasmo, agir en Dieu, étymologiquement. Nous porte à descendre, nous aussi, à nous donner et à nous laisser envoyer par Jésus pour que ce salut qu'il a acquis, eh bien qu'il en soit de plus en plus glorifié parce que ses enfants se tourneront vers lui. Et cela dépend en partie de nous.